Laudetur Jesus Christus.
Les manifestants soudanais toujours mobilisés contre le coup d'état militaire du 25 octobre dernier. Hier encore, ils ont défilé dans les rues de Khartoum pour demander le retour d'un pouvoir civil. Reportage ce matin à Bahri, ville jumelle de la capitale soudanaise où la répression a été sanglante mercredi. Un premier sommet à Washington entre États-Unis, Mexique et Canada. Ce sommet des trois amis, comme il est appelé, est un mélange d'amabilité sans pour autant effacer les contentieux. Au sommaire de ce journal également, le rapatriement de plus de 400 Irakiens. Ils étaient bloqués à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Nous reviendrons aussi sur les terribles chiffres de la guerre au Yémen. Et puis dans notre dossier, les Émirats arabes unis ont annoncé en marge de la COP26 la mise en marche d'un troisième réacteur nucléaire. Quels sont les intérêts pour le pays du Golfe? Nous en discuterons à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Au Soudan, les connexions Internet sont rétablies progressivement. Pendant plus de trois semaines, depuis le coup d'État, une chape de plomb recouvrait la répression des manifestations pacifiques. Celles de mercredi ont été violemment réprimées dans le sang, faisant au moins 15 morts et plus d'une centaine de blessés, rien que à Khartoum, la capitale. Et c'est surtout dans la ville de Bahri, jumelle de Khartoum, au nord du Nil Bleu, qui a été le plus touchée par la violence des forces de l'ordre. Au moins 13 personnes y ont été tuées. Hier était un jour de deuil pour les habitants de ce quartier, mais aussi un jour de protestation. Notre correspondant Elliot Brachet était sur place.
Dans le cimetière qui fait face à la mosquée Al-Tagwa, Ismaël Taj El-Sir se recueille sur la tombe de son frère Louaï. Ce professeur a reçu une balle fatale dans la poitrine alors qu'il manifestait pacifiquement.
Les responsables sont clairement identifiés. J'accuse la junte militaire et le conseil souverain. Ils sont à l'origine de tous ces morts depuis le 25 octobre dernier. Celui qui dit le contraire n'a pas vu ce qui se passe dans la rue. Il y aura une justice. Cela prendra du temps, mais justice sera faite.
À quelques rues de là, des affrontements se poursuivent entre manifestants du quartier qui ont dressé des barricades et les forces de police qui tentent de les dégager. Un docteur sort de chez lui, furieux, il lève les bras en l'air.
Là, ils sont en train de nous encercler à balles réelles et à coups de gaz lacrymogène lancés au hasard jusque dans nos maisons. Ce sont les mêmes pratiques que sous le régime d'Omar al-Bashir. Le rôle de l'armée est de protéger nos frontières. Le gouvernement doit être civil.
À la nuit tombée, certains vont présenter leurs condoléances aux familles endeuillées du quartier. D'autres reconstruisent les barricades. Pour beaucoup, la tristesse a déjà laissé place à la colère. Elliot Brachet, Khartoum, Radio Vatican.
Et le secrétaire d'État américain a demandé au Soudan d'autoriser les manifestations pacifiques tout en condamnant la répression meurtrière. L'armée doit respecter les droits des civils à se réunir pacifiquement et à exprimer leurs opinions, a déclaré Anthony Blinken depuis Abuja, la capitale nigériane, où il poursuit sa tournée africaine. En Éthiopie, les émissaires des États-Unis et de l'Union africaine ont fait leur retour hier à Addis Abeba dans le but de négocier un cessez-le-feu. L'armée gouvernementale affronte toujours les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Dans le nord du pays en particulier. Le conflit qui dure depuis plus d'un an en Éthiopie a provoqué une catastrophe humanitaire au Tigré. Près de 200 enfants sont morts de faim dans 14 hôpitaux de la région. Aux États-Unis, c'est une première depuis 2016. Joe Biden recevait hier à la Maison-Blanche les dirigeants mexicains et canadiens. Donald Trump, lui, avait abandonné ce sommet dit des leaders d'Amérique du Nord, surnommé aussi celui des Tres Amigos, des Trois Amis. L'occasion, en effet, de multiplier les amabilités après les années Trump, même si entre Joe Biden, Justin Trudeau et Andrés Manuel López Obrador, les contentieux existent toujours. Loïc Loury.
Acheter américain, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité pure et dure. Joe Biden l'affirmait récemment, lui qui mise sur le Made in USA, notamment dans l'automobile. Le président espère ainsi un crédit d'impôt destiné à pousser à l'achat de véhicules électriques 100% américains. Une position très America First qui irrite ses partenaires canadiens et mexicains. Les deux pays, en effet, sont étroitement liés au secteur automobile américain en matière de production et d'assemblage. Et une telle mesure est pour eux une promesse d'emploi perdu. entendu. C'est l'un des points de crispation de la relation entre Washington, Ottawa et Mexico, mais ce n'est pas le seul. À cela s'ajoute la crise migratoire à la frontière sud, voire la déception des Canadiens après l'abandon américain du pipeline Keystone. Les trois dirigeants ont beau avoir multiplié les signes de respect, la relation entre Washington et ses voisins n'est pas encore totalement apaisée, même si ce sommet marque clairement, après la parenthèse Donald Trump, un retour à une diplomatie plus traditionnelle. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Au Venezuela, des élections régionales et municipales auront lieu dimanche prochain. Plus de 20 millions de Vénézuéliens sont appelés aux urnes pour élire notamment 23 gouverneurs. Un scrutin qui se déroule sur fond de graves crises économiques et sociales. L'opposition qui avait boycotté les précédentes élections dans le pays présente cette fois-ci des candidats. Signe d'ouverture du régime de Nicolas Maduro, des observateurs de l'Union européenne ont été invités pour superviser ces élections. C'est une première depuis 15 ans. La déforestation de l'Amazonie au Brésil se poursuit à un rythme inquiétant. En un an, elle a progressé de plus de 22%. Ce sont les chiffres donnés hier par l'Institut national de recherche spatiale du Brésil qui surveille l'évolution de la surface de la forêt tropicale. Plus de 400 migrants irakiens ont été rapatriés hier dans leur pays. Ils étaient depuis plusieurs semaines bloqués à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Des migrants qui viennent en particulier de la région du Kurdistan. À Bagdad, les explications d'Anne-Sophie Lemoff.
Désillusion, mais aussi soulagement d'en être sorti vivant. Le rapatriement par les autorités irakiennes jeudi de 431 migrants irakiens coincés dans une forêt froide à la frontière entre le Bélarus et la Pologne sonne la fin de leur rêve européen. 95% de ces jeunes et familles rapatriés à Erbil, capitale de la région autonome kurde, et Bagdad, sur une base volontaire, sont issus de ce Kurdistan irakien situé au nord de l'Irak. Une région pourtant décrite comme un oasis de paix au développement insolent. La majorité d'entre eux dit avoir obtenu des visas de tourisme, forfait tout compris pour le Bélarus. Pour se les payer, beaucoup ont tout vendu, y compris parfois leur maison, avec cet objectif, fuir la corruption endémique, le système clientéliste dont dépend l'accès à l'emploi, orchestré par les pouvoirs locaux. Afin de freiner les départs massifs, les liaisons régulières entre Bagdad et Minsk sont suspendues depuis août et les consulats du Bélarus fermés en Irak depuis une semaine. Le gouvernement irakien prévoit d'autres vols de rapatriement. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
Et hier, les pays du G7 ont dénoncé le régime bélarusse accusé d'avoir orchestré cette crise migratoire. Ils ont demandé à Minsk d'accorder aux organisations internationales un accès immédiat et sans entrave afin de livrer de l'aide humanitaire aux migrants. Il n'y a pas de contradiction entre aider les réfugiés et respecter le travail de ceux qui défendent la sécurité du pays, a rappelé de son côté Caritas Pologne. Dans les paroisses de la région, les collectes de produits de première nécessité se multiplient. Dimanche prochain, une collecte pour les migrants et les réfugiés sera organisée dans les églises partout en Pologne. Il s'agit d'une réponse à l'appel du président de la conférence épiscopale polonaise. Direction à présent le Yémen où la guerre civile se poursuit sans fin. 14 700 rebelles chiites houthis ont été tués en 5 mois dans la bataille pour le contrôle de la ville de Marib au nord du pays. Tués pour la plupart dans des frappes aériennes de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Selon deux responsables du ministère de la Défense basé à Sanaa, la capitale, ces chiffres particulièrement élevés ont été communiqués par des sources pro-saoudiennes proches du gouvernement. Ils révèlent en tout cas la violence des combats dans ce pays depuis le déclenchement de la guerre. En 2014, Claire Iobé.
Marib, dernier bastion du gouvernement yéménite au centre du pays. C'est dans cette ville stratégique riche en pétrole et en gaz que se joue depuis plusieurs mois maintenant une lutte sanglante entre rebelles houthis et la coalition pro-gouvernementale dirigée par l'Arabie Saoudite. Cette coalition appuie les forces du gouvernement yéménite au sol et tente de repousser l'offensive des houthis qui eux veulent s'emparer de la ville. Les rebelles ont déjà arraché au gouvernement l'essentiel du nord du pays dont la capitale Sanaa en 2014. Mais le coût humain de cette lutte est particulièrement élevé. Ces dernières semaines, les frappes aériennes menées par Riyad dans la région ont redoublé d'intensité, faisant quotidiennement des centaines de morts du côté des rebelles, que les sources proches de l'Arabie Saoudite communiquent dans des bilans réguliers. Du côté du gouvernement, près de 1 200 combattants auraient été tués depuis juin en défendant Marib. La guerre qui sévit au Yémen depuis 7 ans a plongé le pays dans l'un des pires drames humanitaires au monde. Elle a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes civiles et des millions de déplacés.
Claire Riobé. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi annonce renoncer à sa réforme des lois agricoles. 3 lois très controversées vont donc être abrogées. Elles permettaient notamment aux agriculteurs de vendre leur production aux acheteurs de leur choix plutôt que de se tourner exclusivement vers les marchés contrôlés par l'État, ce qui leur assurait un prix minimal. Une libéralisation du secteur qui avait provoqué de très nombreuses manifestations d'agriculteurs. L'opposition indienne a salué une excellente nouvelle. Le secteur agricole indien représente 15% de ce pays, du PIB de ce pays d'1,3 milliard d'habitants. Et puis, un mot du Japon où 430 milliards d'euros ont été mis sur la table par le Premier ministre afin de relancer l'économie japonaise. Parmi les mesures annoncées, une prime individuelle pour les jeunes de 18 ans et moins et des personnes en situation de précarité. Les Émirats arabes unis ont annoncé en marge de la COP26 la mise en place d'un 3e réacteur nucléaire dans une centrale de la région d'Al-Dhafra, c'est près d'Abu Dhabi, à l'ouest. Ce réacteur qui doit servir à la production d'électricité dans le pays fait partie d'un projet lancé déjà il y a 11 ans par les Émirats. Lorsque l'ensemble des 4 réacteurs de la centrale seront achevés, ils devront fournir une énergie respectueuse de l'environnement, une étape très attendue dans la région, d'autant que la capacité de production de la centrale devrait s'élever à 25% des besoins en énergie électrique des Émirats. David Rigoulet-Rose est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il revient ce matin sur les intérêts en jeu pour les Émirats derrière ce projet.
Le projet, de toute façon, remonte déjà à 2010. Ça s'inscrit dans la perspective de la transition énergétique. Il y a une stratégie émiratie qui est fondée sur 3 volets parce que les besoins énergétiques sont très importants. Et donc, c'est le gaz, l'énergie solaire et l'énergie nucléaire. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, la centrale, en fait, qui a été un projet élaboré par le Korea Electric Power Corporation, est destinée à assurer à terme 25% des besoins en électricité du pays. Le premier réacteur fonctionne depuis avril 2021. Le deuxième a été mis en service en août 2021. Et donc, le troisième doit être prochainement opérationnel avec la perspective d'un 4e qui assurerait une sécurité énergétique pour les Émirats.
On parle bien ici de production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Doit-on craindre que cette centrale aux Émirats arabes unis soit utilisée à l'avenir dans un but militaire ?
Alors non, concernant les objectifs, ils sont très clairs. D'ailleurs, les Émirats ont donné des garanties en termes de contraintes à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc il n'y a pas du tout de suspicion en la matière. On n'est pas dans la même configuration qu'avec le programme iranien. C'est clairement dans le but d'assurer des besoins en termes de nucléaire civil. Alors évidemment, la maîtrise de la technologie nucléaire peut susciter des interrogations, mais dans le cas des Émirats, c'est vraiment pas l'objectif premier, d'autant plus que les contraintes qu'ils ont accepté d'avoir sont extrêmement strictes en termes de supervision et à la fois technologique et scientifique.
Oui, et au sujet de l'Iran, justement, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que Téhéran continue d'enfreindre certaines restrictions nucléaires en enrichissant son uranium. Et dans un même temps, l'Égypte et la Jordanie développent leur propre programme nucléaire. Quel regard portez-vous sur cette course au nucléaire au Moyen-Orient ?
Oui, c'est le problème, effectivement, de la maîtrise du cycle nucléaire, parce que l'énergie nucléaire a potentiellement un usage dual, c'est-à-dire à la fois civil et militaire. Et là, ça relève d'un choix politique. Alors, lorsqu'il y a un pays qui est soupçonné d'utiliser le nucléaire civil avec d'autres objectifs, ça inquiète les pays voisins qui potentiellement peuvent être amenés à se lancer dans la course nucléaire, officiellement civile, mais avec des calculs évidemment sous-jacents qui peuvent pas être évacués, permettant éventuellement à terme une utilisation autre que civile. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, et là c'est le rôle de l'AIEA qui est fondamental, parce que c'est le chien de garde concernant le nucléaire. Le nucléaire ne peut pas être interdit en termes civils aux pays qui en ont besoin, d'autant plus qu'on est dans une logique justement de transition énergétique à l'échelle mondiale avec les enjeux du changement climatique. Donc il va de soi que le nucléaire est une des options parmi d'autres pour justement assurer cette économie décarbonée. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a une dimension aussi politique. Alors, le problème de l'écologie pour les Émirats est aussi sensible, parce qu'aujourd'hui, les Émirats, c'est un grand contributeur au réchauffement climatique. Ils sont 7e exportateur de pétrole. Ils ont le premier fonds souverain, justement, qui est grâce à la manne pétrolière, et ils sont le troisième émetteur mondial de CO2 par habitant. Donc il y a aussi un problème d'image, effectivement, dans la perspective de la transition énergétique, qui est un sujet qui préoccupe les Émirats depuis longtemps, hein, déjà. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant de voir que les Émirats ont obtenu justement l'organisation de la COP en 2023, parce que c'est une manière aussi pour eux de montrer qu'ils sont dans une culture de responsabilité. Et c'est dans ce cadre-là que la stratégie ne s'appuie pas que sur le nucléaire, mais à la fois sur le gaz, les énergies solaires. Et d'ailleurs, on peut noter que lors d'un voyage récent, le ministre des Affaires étrangères à Damas a proposé une coopération, alors là c'est une dimension à la fois politique et d'affichage, en termes solaires au régime de Damas.
Interrogé par Claire Riobé, David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et c'est la fin de ce journal, je vous retrouverai avec grand plaisir pour une nouvelle édition à 13h. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.